Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de la nécessité d'une réforme scolaire. Le sujet du jour est inspiré d'un article de Mathieu Bock-Côté intitulé « Sauver quelle école publique ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allons voir ce que nous dit son collègue Pierre-Olivier Zappa sur la condition des bâtiments scolaires. Et oui, il parle de la condition des bâtiments scolaires dans un article qui a pour titre « Nos écoles tombent en ruine ». Pierre-Olivier Zappa brosse le tableau suivant. Le portrait des écoles vieillissantes a pris des proportions alarmantes à l'échelle du Québec. 478 bâtiments scolaires sont dans un état préoccupant selon les évaluations récentes du ministère de l'Éducation. À l'échelle de la province, 55 bâtiments sont dans un état si critique qu'il s'avère plus rentable de les démolir et de les reconstruire. Ce constat est le résultat de la politique, mesdames et messieurs, du pelletage par en avant. Les Québécois veulent du rêve, mais Remax l'a bien compris. On le voit dans la pub, Remax s'occupe de la réalité. Et vous pouvez constater que le gouvernement n'utilise pas la politique de Remax. Dans cette publicité, on voit André Sauvé, qui dit que le rêve, c'est d'avoir une maison. Mais celui qui s'occupe de la réalité, c'est l'agent d'immeuble. Tous les détails, la paperasse, et puis tous les aspects légaux, si on veut, les documents, etc. Notre gouvernement, lui, d'année en année, nous fait des promesses sur le dos de nos infrastructures. Et donc, ils vont dire, oui, on va vous donner un pont, puis oui, on va vous donner une autoroute. Puis ce sont tous des choses importantes, puis oui, on va régler le problème de la santé. Mais pendant qu'ils nous font des promesses puis qu'ils injectent de l'argent, pendant ce temps-là, ils vont négliger autre chose. Mais le problème, ce n'est pas le gouvernement, dans le fond. Le problème, c'est le peuple québécois qui ne veut pas d'un budget rigoureux, d'un budget serré, d'un budget où est-ce qu'on doit faire attention aux dépenses. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que là, on est en train de récolter ce qu'on a semé. En éducation, on a rêvé des prototypes d'élèves formés à devenir des hommes nouveaux, des libres penseurs et ouverts à la postmodernité. Et c'est pour ça que j'aime la lucidité de Mathieu Bock-Côté, qui lui fait une lecture assez intéressante de ce qui s'est passé dans le monde de l'éducation. Vous savez, dans le monde de l'éducation, on a pensé à des réformes, on a pensé à des stratégies éducatives pour amener les élèves, savez-vous quoi? À devenir des apprenants. C'est-à-dire, hein, des apprenants. Oui, oui. Avant, on parlait d'un élève qui était là pour s'instruire. Ensuite, on appelait l'élève l'apprenant. C'était le maître et son disciple, un apprenant. Maintenant, on va une coche plus loin, on l'appelle un s'apprenant. S apostrophe apprenant. Ça veut dire quoi? C'est que celui qu'on appelle le prof, l'enseignant qui est dans la classe ou l'enseignante, ne sont plus des maîtres qui enseignent le savoir, mais ils sont des animateurs de projets pour amener les élèves à apprendre par eux-mêmes à apprendre. On veut les amener à apprendre. Le problème, c'est qu'on saute une étape. Il y a un temps où est-ce que l'élève doit apprendre tout simplement. Mémoriser, apprendre, conjuguer, réciter. Mais on voulait un environnement éducatif un peu plus olé-olé. Et voici ce que nous dit Mathieu Bock-Côté. Pour s'opposer aux coupes en éducation, des parents organisent des chaînes humaines autour des écoles. Ils y amènent souvent leurs enfants et sont rejoints par des députés qui entendent prendre parti pour l'école publique. Tout cela est admirable. Car si l'école publique est mal en point, ce n'est pas seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi philosophiques. Et là, il touche le point. Il touche le nerf de la guerre. Je poursuis. La vision sur laquelle on l'appuie est en faillite intellectuelle. Mais de cela, on parle moins. Le ministère de l'Éducation, au fil des ans, a bien mal servi l'école. pour dire vrai, il a mal servi l'école en général en la soumettant à l'abrutissante réforme scolaire. On en connaît l'esprit. Il fallait remplacer les connaissances par les compétences. En un mot, l'école a renoncé à transmettre une culture et un patrimoine de civilisation. Et c'est exactement ça, mesdames et messieurs. On est en train de dénaturer le patrimoine québécois. On veut tout aseptiser parce qu'on veut former un s'apprenant qui devient un libre penseur et qui n'est pas restreint ou soumis à un code ou à des référents. Nos enfants ont besoin de repères, ont besoin d'apprendre, de connaître, de découvrir et de savoir qu'avant eux, il y a eu des gens qui ont travaillé puis qui ont bâti cette nation. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter la semaine prochaine la série sur l'histoire des franco-protestants en Nouvelle-France. Vous allez comprendre davantage l'importance de nos racines. Mais je poursuis avec ce que Mathieu Boccoté nous dit. Ce qu'on appelle les pédagogues du ministère, qui sévissent aussi dans les facultés de sciences de l'éducation, se sont imaginés qu'en imposant des savoirs aux enfants, on les étouffait et on les empêchait de se développer. Ça, c'est l'héritage de Jean-Jacques Rousseau et d'Alexander Neil. Alexander Neil, qui est l'auteur des Libres enfants de Summerhill. Pour lui, sa vision à Alexander Neil, c'était que les enfants devenaient maîtres de l'école. Les adultes qui étaient là, c'est simplement pour surveiller puis s'assurer à ce que l'école soit gérée d'une manière démocratique. Et ce qu'on lui reprochait, c'est de dire « Ouais, mais ça va être le fouillis. » Non, 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 c'est pour ça que les adultes étaient là. Les adultes sont là dans l'école de Summerhill pour s'assurer à ce que les élèves trouvent entre eux des solutions. En disant « Il y a un problème, on ne le laisse pas aller, on ne le met pas en dessous du tapis. Vous allez... » discuter ensemble, puis trouver une solution juste. Puis s'il y a quelqu'un qui est insatisfait, eh bien, il va falloir trouver un moyen entre vous. Et ce n'est pas les adultes qui vont vous donner la réponse. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les adultes sont mis de côté et les enfants sont détachés d'un héritage qui provient des adultes, qui provient de ceux qui ont été là avant eux. Mais je poursuis avec ce que nous dit Mathieu Boccoté. Mais le problème de l'école publique ne s'arrête pas là. On lui demande aujourd'hui de prendre sur ses épaules tous les problèmes de la société. Et ça, c'est vrai. L'école, au point de départ, devait être la continuité des parents. Non pas le remplacement. Mais on est dans une société tellement folle, tellement rapide. On est tellement sollicité de toutes parts. Les parents sont vidés et épuisés. Ils sont bien contents. Et je les comprends. J'ai été parent d'enfants au primaire et au secondaire. J'ai été enseignant au primaire et au secondaire. J'ai été directeur d'école au primaire et au secondaire. Je peux vous dire que je comprends de tous les côtés cette problématique-là. Alors, c'est pour ça qu'il va soulever la question « Éduquer ou instruire? » Elle devait traditionnellement instruire. Désormais, on veut qu'elle éduque. Souvent parce que les parents ne le font plus ou le font mal, en plus de traiter souvent leur enfant comme d'admirables petites merveilles qui ne sauraient jamais être réprimandées par leurs enseignants. Désormais, on veut qu'elle éduque. Souvent parce que les parents ne le font plus ou le font mal, en plus de traiter souvent leur enfant comme d'admirables petites merveilles qui ne sauraient jamais être réprimandées par leurs enseignants. Ça, c'est un point. Ça, j'ai trouvé ça difficile dans ma carrière d'enseignant. Quand je savais que l'élève avait tort ou avait fait mal et que les parents prenaient leur défense plutôt que de m'appuyer. Mais ça, c'est la triste réalité. Je poursuis. Au contraire, on verra souvent des parents faire des misères aux enseignants. Ce métier absolument admirable est devenu pour plusieurs invivable. Et l'éclatement de la famille n'est pas sans effet sur la salle de classe. Les classes sont turbulentes, les cas-problèmes se multiplient. Et ça, c'est vrai, mesdames et messieurs. J'ai été aussi superviseur de stage, conseiller de stage. Donc, je formais les étudiantes. Je dis les étudiantes parce que la majorité, c'était des filles qui étaient dans les classes pour enseigner. Et je les supervisais et je leur apprenais à devenir des enseignantes. Et moi, je focussais seulement sur un point, la prise en charge de la classe. Et j'essayais de leur apprendre que vous n'êtes pas là pour être aimé, vous êtes là pour amener l'élève à progresser, à apprendre, à se développer, à être instruit. Donc, si un élève n'est pas à son affaire, eh bien, il faut mettre en place des stratégies pour l'amener à son affaire. Le problème, ce n'est pas les stratégies. Les stratégies peuvent être très, très simples. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui avaient peur de ne pas être aimées par les élèves. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un point qui est souvent soulevé dans la littérature. Prenons par exemple une entrevue qui a été accordée par M. Monsef Guitouni et qui a été pilotée par Joanne Farran et André C. Moreau. Vous avez accès à cette entrevue sur le site ericlantier.net. Monsef Guitouni, qui est un psychosociologue, directeur du Centre de psychologie préventive et de développement humain, et également président de la Fédération internationale pour l'éducation des parents. Monsef Guitouni va soulever dans cette entrevue que c'est une problématique. C'est une problématique chez les enseignants de vouloir être aimé par les élèves. Voici ce qu'il nous dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aimer ou aider quelqu'un doit avant tout rapporter à l'autre, pas à soi. Ses besoins personnels doivent passer en second lieu. Plusieurs jeunes enseignants vont vers l'enseignement avec le désir d'être aimé, d'être utile ou de se sentir important. Ce n'est pas interdit, à condition qu'ils n'utilisent pas ces désirs comme des outils de motivation au travail, sans quoi ils seront déçus, trahis ou tentés pour certains de démissionner. Quand on sait que près de 20 % des nouveaux enseignants quittent l'enseignement après leur première ou deuxième année d'expérience, il y a là une perte inutile pour le système scolaire. Lorsqu'un jeune enseignant est atteint d'une maladie professionnelle ou d'une dépression, la société perd non seulement un professionnel, mais aussi une qualité humaine. Cette personne remplie d'espoir et de désir face à l'avenir devient, du jour au lendemain, négative ou malade. Ça, c'est important, mesdames et messieurs. Un problème qui doit être adressé. C'est gros ce qui se passe en ce moment en éducation. On a besoin de travail. Mais savez-vous quoi? Mathieu Bock-Côté met le doigt dessus. C'est pas seulement un problème organisationnel. C'est relié à un problème philosophique. Un autre élément que soulève Mathieu Bock-Côté, c'est le suivant. Il dit ceci. « Et au nom de l'inclusion et de la diversité, on a souvent décidé d'intégrer dans les classes régulières les enfants avec des problèmes de discipline ou d'apprentissage graves et qui retardent ensuite toute la classe. C'est la classe dans son ensemble qui doit s'adapter aux troubles faits. Les enseignants, pour bien faire leur travail, ont besoin d'éducateurs spécialisés près d'eux. Cela alourdit leurs tâches considérablement, en plus de les noyer sous la paperasse. » Ce que je dis à ça, là, c'est que nous devons revenir au modèle allégé, régulier et enrichi. Il fut un temps où est-ce qu'il y avait des classes allégées, des classes pour les étudiants réguliers, puis des classes pour les étudiants qui avaient besoin d'aller plus loin, donc on appelait ça le programme enrichi. L'idée, c'est pas de dire, bien, toi t'es poche, toi t'es pas pire, puis toi t'es excellent. Non, l'idée, c'est d'aller et de travailler avec le potentiel de chacun. Et on met ensemble ceux justement qui ont besoin d'aide, on met ensemble ceux qui sont capables de suivre le peloton, et on met ensemble ceux qui sont en mesure d'aller plus loin. Et j'aime bien ce qu'il va dire à la fin de son article, Mathieu Bock-Côté. Il faut sauver l'école publique, c'est même un devoir collectif, mais il ne suffira pas d'y investir des millions supplémentaires. Il faut l'amener à renouer avec un véritable humanisme pédagogique et peut-être surtout la protéger des idéologues pédagogues qui la maltraitent en pensant l'aider. C'est vrai, mesdames et messieurs. Oui, oui, on a besoin d'injecter de l'argent. Oui, moi, je le dis, je le répète, on doit couper dans les structures puis investir dans les services directs aux élèves. Mais d'abord et avant tout, il faut changer la philosophie pour avoir des résultats concrets, pour qu'il puisse y avoir des changements significatifs dans les salles de classe. Et ce que j'aime, c'est la dernière phrase de Mathieu Bock-Côté, et peut-être surtout la protéger des idéologues pédagogues qui la maltraitent en pensant l'aider. C'est exactement ce que disait un homme sage du nom de Salomon, qui a été roi dans l'Antiquité. Et il disait « Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. » Ça veut dire qu'on a l'impression que ça va changer les choses. On a l'impression que ça va révolutionner. Mais au bout de la ligne, le résultat, ce sont des échecs, du décrochage et des enseignants qui n'y croient plus parce qu'ils quittent la profession. Notre système scolaire produit un trop grand nombre de décrocheurs, comme on le mentionne dans le rapport Ménard. Ce rapport qui s'intitule « Savoir pour pouvoir entreprendre un chantier national pour la persévérance scolaire ». Notre système produit trop d'analphabètes. Le 10 janvier 2016, le Journal de Montréal mentionnait que 50 % des Québécois ont de la difficulté à lire et à écrire. Notre système est déficient et il produit également des collégiens pour qui l'effort ne fait pas partie de leur intérêt. Et c'est ce que le rapport pour défendre la formation générale au cégep nous révèle. Ce n'est pas un rapport contre les cégeps, c'est un rapport en faveur de la formation générale au cégep, qui nous dit, mesdames et messieurs, que pour les collégiens, l'effort ne fait pas partie de leurs intérêts. Écoutez, en terminant, le retour aux classes allégées, régulières et enrichies permettrait de bien cibler les clientèles et les motiver dans leurs forces pour leur permettre d'aller au bout de leurs capacités et parfois même au-delà. En ce moment, on se contente de niveler par le bas. L'état des bâtiments en est le meilleur exemple. Mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de clore cette émission. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé, mesdames et messieurs, le 92,7 et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!